Ouvrant cette table ronde, à laquelle je vous remercie d'assister, puisque c'est en somme la dernière étape, après des moments dont je sais qu'ils ont été denses et chaleureux, je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué au rassemblement de ce qui me semble être un ensemble exceptionnel de grands témoins et d'acteurs, tous remarquables, de cette relation entre Rome et Paris, qui fait figure à la fois de cas très particuliers et sans doute aussi de modèle avec ses hauts et ses bas. Je voudrais également, et très brièvement, introduire chacun de ceux qui vont s'exprimer en montrant que, contrairement à ce qui s'est dit en fin de matinée, nous nous situons bien dans le temps voulu par Paolo Carile, celui de l'histoire longue, de la réflexion, et aussi d'une actualité brûlante, et que ce qui réunit les intervenants de cet après-midi, c'est aussi ce qui se rattache à cette relation entre Rome et Paris, et aussi peut-être ce qui fait que chacun apporte une valeur ajoutée exceptionnelle. Comme on l'a vu hier, les relations entre nos deux villes se sont inventées en créant des formes essentielles de culture dans les pays dont elles sont, Rome et Paris, le centre. Et ces forces d'invention artistique majeures sont parfois dues à des commandes publiques, parfois à des commandes privées. Elles ont fécondé des transferts dont les traces urbaines, aujourd'hui, portent la marque. On a parfois voulu, cela s'est dit, et cela a provoqué de grandes innovations artistiques, que Paris copie l'invention romaine, que Rome imite Paris, et sous Richelieu, vous le savez, certains écrivains étaient tenus de donner de la jalousie à l'Arioste et au Tasse, à Paris, c'était la règle. Mazarin importait massivement les exemples du goût romain, et aussi la naissance de la Veduta moderne, l'art du paysage à la française, est un autre exemple d'influence revendiquée. À partir de 1640, on pourrait aussi citer l'intrusion ou l'invasion de la Rome antique qui est entrée triomphalement à Paris, comme elle était entrée bien plus anciennement dans le pays qu'il avait remise en lumière et en valeur. Et on a pu comparer à Paris la Rome antique à ce qui a été le côté fécondant de l'influence de Dionysios sur l'Inde classique. Dans les discours d'hier, on trouvait un exemple de cette marque et de ces inventions créées à des liés à des commandes et à des visions dans le discours de Bernard Latarget sur le Paris des grands travaux, après celui de Haussmann et en parallèle à la restructuration de Rome qui nous avait été si bien décrite par Gilles Pécou. Un souvenir me vient qui montre qu'il ne s'agit pas seulement d'urbanisme, mais bien d'une véritable trace à la fois historique et politique. Parmi tous les grands chantiers du président de la République, celui auquel était le plus attaché François Mitterrand était, à n'en pas douter, la pyramide du Louvre. Il allait la visiter souvent, en voir le chantier, les travaux, y compris pendant l'année où le projet était contesté dans la France entière. Il prolongeait volontiers sa visite par une promenade dans les jardins des Tuileries. Des Tuileries, il gagnait la Concorde. De la Concorde, il regardait l'Arc de Triomphe. Derrière l'Arc de Triomphe, s'esquissait déjà la Grande Arche de la Défense, l'Arche de Sprengelsen, qui était aussi un de ses grands chantiers. Et il avait ce geste pour décrire l'axe qui se dessinait alors dans Paris. 1, 2, l'avenue de la Grande Armée à partir de l'Arc de Triomphe vers la Défense. Et puis, 3, pour montrer que l'arche de Sprengelsen faisait lui aussi un léger arc, il appelait cela un décalage, avec la perspective de la Grande Armée. Mais il remarquait, et il en était très heureux, que ce léger arc, que ce léger décalage de l'arche de Sprengelsen retrouvait précisément un parallèle avec la ligne qui allait depuis l'Arc de Triomphe jusqu'aux Tuileries et jusque non seulement à la pyramide de Pei, mais à ce qu'il aimait toucher dans les fondations du Louvre, c'est-à-dire les anciennes fortifications de Philippe Auguste. Et je voyais dans ce souci de montrer le parallélisme entre l'arche de Spreckelsen et la ligne qui conduisait jusqu'à Philippe Auguste, quelque chose de ce qui, je crois, n'était pas seulement dans sa pensée une géographie urbaine rénovée, mais une géographie de l'histoire de Paris. Une vision de l'histoire politique de Paris qui se construisait et s'étendait à partir de sa reconstruction urbaine. Et je crois que d'ailleurs, ceux qui se sont exprimés, qui s'expriment ici sur ces questions romaines et parisiennes, ne sont pas que des critiques de la géographie ou de l'urbanisme, ce sont aussi des historiens, et ce sont aussi des historiens, des histoires politiques qui ont marqué si fortement les deux capitales. Une deuxième source des croisements que nous examinons et que nous allons examiner, et dont nous admirons encore les traces, tient aux grands événements de l'histoire européenne. Il y a eu une Rome des Lumières, inspirée des formes d'art dont Rousseau et les encyclopédistes ont provoqué l'émergence en France. L'Italie garibaldienne, on l'a dit, a enflammé des artistes français qui ont importé la geste garibaldienne et ses effets. Autre manière de jouer, non moins productive, et qui a aussi fait son apparition derrière les débats et les communications, les Romains de Paris, dont certains sont ici, les Parisiens de Rome, depuis la fin du XVIIIe siècle surtout, ont introduit dans leur lieu de vie les manières et les formes d'art auxquelles ils étaient attachés parce qu'elles signaient leur appartenance culturelle au pays qu'ils avaient quitté, tout en vivant de plein pied avec la ville dans laquelle ils s'étaient installés. Ces différents volets font intervenir la force de modèle, leur capacité à franchir les Alpes et à féconder l'autre d'un rapport duel. Ils ont aussi pour effet de provoquer des formes de création qui ne sont ni tout à fait romaines, ni tout à fait parisiennes, mais qui, sous l'effet de ces croisements, provoquent l'émergence de véritables novations. Un tel foisonnement me semble donner raison à un écrivain des cultures qui n'est ni romain ni parisien, qui s'est d'abord penché sur les Antilles et a développé une idée de créolisation dans laquelle il voit non seulement un processus de formation des sociétés créoles en tant que telles, c'est Édouard Glissant, mais aussi un devenir qu'il pressent pour les cultures du monde entier, résultant de leur mise en relation active et accélérée. La créolisation, ainsi conçue, désigne l'imprévisible, né d'une élaboration d'entités culturelles inédites, tierces en quelque sorte, par rapport aux apports de deux lieux séparés. Ce qui est pris à l'un n'est pas gagné pour l'autre, il se crée du tiers, et en tant que tel, cette créolisation se différencie largement de ce qui serait seulement un métissage et nécessite certaines conditions d'épanouissement. Ces conditions me semblent réunies dans la relation entre Rome et Paris. Cette créolisation, au sens où je l'entends, ne concerne pas seulement les formes d'art, elle permet à des individus qui sont des passeurs, à la fois parisiens, romains, français, italiens, sans que ce qui a été acquis dans un monde vienne diminuer ce qui appartient à l'autre, de produire des œuvres ou des approches critiques d'une remarquable originalité. On ne sait pas s'il faut parler en une langue plutôt qu'en une autre, ou plutôt si. Il faut parler les deux et penser, comme le faisait remarquablement hier le professeur Tullio Gregori, en termes de traduction. Pensez que ce qui se dit en une langue n'est pas le calque ou le simple équivalent de ce qui se dit en une autre. Que l'on voit une ville, qu'on la sent, qu'on la respire en langue et qu'il est intéressant, alternativement, de la voir dans une langue et dans une autre parce que ce n'est pas la même chose, parce qu'on ne respire pas de la même façon en italien et en français, qu'on ne regarde pas de la même façon, qu'on n'aime pas de la même façon, et que les deux ont un prix tout à fait remarquable. C'est sous ce jour que, quelle que soit la langue de choix qui va être aujourd'hui celle des intervenants, je vous invite à les écouter maintenant, puisqu'ils sont capables, l'un, l'autre, et j'espère bientôt le troisième qui va nous rejoindre et qui est Carlo Ossola, de parler, d'écrire et de créer dans les deux langues, en traduction, avec l'invention de ce qui n'est ni tout à fait le propre de l'un, ni le propre de l'autre, mais cette fécondation croisée d'où résulte du neuf. Patrick Talbot est un ancien élève de l'École normale supérieure, historien, professeur, mais qui a également été conseiller culturel à New York et à Rome, avant d'occuper les postes de directeur de plusieurs écoles d'art à Paris, à Bourges, à Nancy. Il a dirigé l'École nationale supérieure de la photographie en Arles entre 2004 et 2010 et a créé une revue, Inframince, dont il est le rédacteur en chef, de même qu'il dirige une collection anti-caméra dans la maison Actes Sud, ainsi que la revue Regards croisés. Il a surtout, et c'est sans doute un exemple de cette fécondation croisée dont je parlais, pendant son séjour aux Romains, mis en place Eutropia, une revue annuelle de recherche franco-italienne. Il publie régulièrement, depuis 1990, on peut citer dans Regards croisés l'attraction du Pérou, dans les limbes, contemplation et photographie, sur le versant animal dans la revue critique, et bien sûr des articles et des textes, surtout sur l'art, depuis 1990. Il nous parle aujourd'hui, à moins qu'il ait changé son titre, il va nous le dire, du patrimoine et de l'art contemporain.